On en parle sur CFM.
12h08, on en parle sur CFM, l'émission de la rédaction. Avec moi aujourd'hui, Corinne Gester, la présidente de la cantine de Patoun. Bonjour.
Bonjour CFM.
Bonjour. Il y a également Didier Mabi, qui est le président de l'APAM Le Sénéquet. Bonjour.
Bonjour.
Mes deux sociétaires du jour, Casimir Musinski.
Bonjour les manchots libres.
Et Jean-Luc Michel.
Bonjour à tous.
Alors on va aborder plusieurs sujets aujourd'hui. On va commencer par vous, hein, Corinne Gester, puisque vous avez... un petit peu de travail, on verra ça tout à l'heure. Vous êtes la présidente des cantines des Patounes, c'est quoi exactement?
Alors la cantine des Patounes, c'est une association loi 1901 qui a été créée en janvier 2022.
Oui.
Et nous assurons un repas par jour à tous les animaux, enfin disons chiens et chats, de tous les adhérents de la Manche, en fin de compte.
Comment vous est venue cette idée de donner un repas aux animaux?
Oh, eh bien, à l'époque, j'étais bénévole à la Croix-Rouge.
Oui.
Et je voyais tous les bénéficiaires des Restos du Cœur venir chercher leurs colis. Et comme les voitures sont garées juste en face, je voyais les animaux à l'intérieur. Donc, c'est comme ça que ça m'est venu. Mm-hmm. Je dis, est-ce que les animaux mangent à leur faim?
Oui, et
est-ce que les gens aussi ne se privent pas aussi pour leurs animaux?
Et alors?
Et en fin de compte, c'était bien ça.
Les gens se privent pour...
Tout à fait.
Donc vous avez décidé de nourrir leurs animaux.
Voilà, tout à fait.
C'est ça. Vous faites ça depuis quand?
Depuis le janvier 2022.
Janvier 2022. Est-ce que c'est une activité chronophage? Ça vous prend combien de temps par jour?
Ça prend par jour... Ça nous prend deux demi-journées par semaine puisqu'on a une permanence.
Oui.
Le jeudi après-midi et le vendredi après-midi, mais autrement, dans la semaine, il y a toujours plein de choses à faire. Il y a le téléphone à répondre parce qu'on a pas mal d'appels, on a des mails.
Oui.
On a aussi toutes les commandes à faire pour les...
C'est un travail à plein temps ou...
Pratiquement.
Pratiquement à plein
Pratiquement.
Temps.
Pratiquement.
Vous êtes combien de bénévoles?
Nous sommes 9 bénévoles.
9 bénévoles et tout le monde est à plein temps ou simplement vous?
Tout le monde est très bien investi, oui, tout
ouais.
à fait. J'ai une super équipe.
C'est quoi le profil de vos bénévoles? Ils viennent là pourquoi? Déjà, est-ce qu'ils ont des animaux? C'est pour ça qu'ils...
Ils ont tous des animaux.
Oui.
Oui, tout à fait.
Et d'autres particularités de...
Il y en a certains qui sont bénéficiaires des Restos du Cœur.
Mmh.
Et autrement, ce sont des personnes à la retraite ou des personnes qui sont encore en activité, mais qui adorent les animaux et qui sont pour la défense animale.
Vous pensez que vous êtes assez connu dans le département, l'association?
Assez connu dans le département, on n'est jamais assez connu dans le département, mais là dernièrement nous avons eu un article sur Ouest France,
oui.
sur Côté Manche, ça nous a encore propulsé avec, on a eu 63 mails qui nous est arrivés en deux jours, plus une 25 appels, mais de toute la France.
Oui, ah, de toute la France.
De toute la France, même de l'île de la Réunion, de la Corse et même de la Belgique.
Parce qu'il n'y a pas d'autres structures comme la vôtre en France, c'est ça?
De notre façon de fonctionner, non. Il n'y en a pas d'autres.
Et ça marche comment ailleurs?
Ils essayent un petit peu d'aider les personnes qui sont peut-être SDF dans les rues en donnant à manger ou les personnes un peu isolées. Ou qui Mais nous, on fait ça ponctuellement.
Alors concrètement, ça se passe comment?
Eh bien nous avons donc deux permanences, le jeudi et le vendredi. Et là, nous distribuons donc un repas par jour aux chiens et aux chats des personnes en grande difficulté financière et sociale.
Mmh.
On monte un dossier, évidemment, à chaque inscription, avec un revenu minimum qui ne doit pas être dépassé.
Ils sont obligés de vous présenter
Tout
une feuille
fait.
De paye ou d'attestation.
Une facture de paye, des impôts.
Une facture, ce n'est pas une fiche de paye.
Oui, mais
les factures, c'est des dépenses, donc il faut retirer un petit peu les montants aussi.
Donc, il faut savoir les revenus, les sorties, les entrées, les sorties.
Les impôts, une déclaration des impôts.
Est-ce que vous avez des références qui sont importantes? Parce que qui finance ça? Est-ce que c'est le département? Est-ce que
c'est financé? On est tout à fait.
C'est autofinancé.
On est indépendant.
Ah oui, c'est bien.
Combien de bénéficiaires?
On n'a pas des bénéficiaires, on a des adhérents.
Ah, des adhérents.
Les bénéficiaires, je les laisse au Resto du Cœur.
D'accord. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que vous prenez...
C'est-à-dire que nous, on demande 2 euros à chaque colis que nous donnons pour le mois.
D'accord. Ah, non, donc 2 euros, c'est la nourriture
repas.
Pour un...
Pour 30 repas minimum.
Et est-ce qu'il y a assez à manger pour les chiens, enfin les chiens, les chats, ou il faut faire un complément à côté?
Nous assurons un repas. Et on veut surtout que les adhérents soient aussi responsables de leurs animaux. Donc on leur laisse
la responsabilité,
le choix.
C'est très bien comme des
démarches.
On leur
laisse le choix de s'occuper du deuxième repas.
D'accord, parce que moi j'ai un chat, il mange souvent, je trouve.
Alors, est-ce que vous achetez des aliments tout faits, là, en boîte?
On n'achète rien du tout.
Des ronds, des canigous, etc.
Canigous, ça n'existe plus.
Est-ce que vous, j'en sais rien, mais moi je suis de l'époque des ronds et des canigous, qu'on nous servait parfois dans les... Dans des restaurants avec couscous, voilà.
Non, comment
non, mais pour tout vous dire, est-ce que vous achetez ces aliments tout faits?
On n'achète rien. On n'achète rien parce que on ne fonctionne que par des dons.
Alors comment vous l'avez?
On vous donne les caisses d'aliments.
Ben, madame va essayer d'expliquer ça.
Je vais essayer d'en passer une sorte.
Ah bon? Oui, non mais. Non mais, la question est de savoir comment vous faites.
Ben, laissez-moi voilà.
Parce qu'il y a des gens qui ont faim, les animaux qui ont faim aussi, c'est difficile.
Casimir, alors, c'est quoi? C'est des dons?
C'est des dons, disons qu'on a fait un travail commercial aussi, donc on a contacté l'usine Normandise de Pire,
oui.
Qui elle fabrique des croquettes et des pâtés, et qui est notre premier donateur en fin de compte, puisque tous les trois mois, on a à peu près 8-9 palettes qui nous arrivent.
D'accord.
Ah, ça c'est formidable.
Après, en complément, il y a...
En complément, j'ai contacté aussi Affinity, à Barcelone.
Oui.
Où j'ai réussi...
Des retours?
Oui, tout à fait. Oui, oui, ils nous livrent des croquettes Advance, Affinity, enfin bon, des très bonnes marques.
Des croquettes, oui.
Et on vient de rentrer, ça fait un an et demi que je cherchais à accéder à ce groupe, le groupe Mars, le groupe américain Mars.
Oui.
Qui, lui, va nous livrer tout ce qui est Pédigré, Whiskas...
Mars, c'est le groupe, c'est la petite barre chocolatée ou...
Non,
ça
Mars,
fait pas...
c'est le groupe Mars, c'est Pédigré, Whiskas, César, enfin c'est un...
Donc c'est les industriels qui vous
tout
donnent la nourriture. Est-ce que vous allez dans des structures, dans des magasins comme les supermarchés
les
pour les collectes, oui.
Tout à fait, oui, on fait des collectes aussi.
Quel accueil on vous réserve?
En grande majorité, très bon accueil.
Ouais. Il n'y en a pas qui se disent, oh, bah, il ferait mieux de s'occuper...
Alors la majorité des réflexions qu'on a, c'est qu'on préfère s'occuper des animaux que des gens.
C'est ça. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Je pense que vous vous occupez des gens.
Mais, c'est ce que j'allais dire, tout à fait. On s'occupe aussi des gens, évidemment, puisque leurs animaux, c'est leur lien social.
Mais on s'occupe pas des animaux, vous occupez aussi des gens. Asinus asinum fricat.
C'est du latin.
Latin de cuisine, oui. Pour la nourriture, bien sûr.
Est-ce qu'il y a des restaurants qui... vous avez des contacts avec des restaurants qui vous donnent les surplus
Non, parce que là, c'est par contre, on parle de frais et on n'a pas de congélateur ou de frigo.
Pas de congélateur, il n'y a pas forcément le droit.
On ne travaille que sur des croquettes et des pochons, enfin, de l'humide et du sec.
Est-ce qu'il y a des critères, on les a vus tout à l'heure, hein, pour pouvoir bénéficier c'est de ne pas avoir beaucoup d'argent. Si on n'a pas les moyens de se nourrir, est-ce que c'est normal, alors je vais peut-être parler un petit peu cru, d'avoir un animal, de prendre un animal si on n'a pas forcément les moyens de le nourrir?
Ça, c'est une réflexion qu'on entend de temps en temps. Mais une personne qui, par exemple, a un travail, et d'un seul coup, il est marié, il divorce, il perd son travail, il tombe dans la déchéance,
oui.
Et son animal, il est là, qu'est-ce qu'on fait?
D'accord, mais pour les personnes qui reprennent un animal...
Donc, si j'ose dire, les animaux sont plus fidèles que les êtres humains.
Ouais, voilà,
on peut dire ça.
Tout à fait, mais de toute façon, l'animal apporte beaucoup, énormément, aux personnes qui sont
tombées dans
la
difficulté.
Déchéance et qui sont en dépression, bien souvent.
Les humains leur rendent?
Ah, tout à fait.
Tout à fait. Est-ce que ça vous est arrivé de faire une dénonciation pour un animal qui était maltraité?
Ah, mais tout à fait. Je suis aussi enquêtrice pour l'association Lamar.
D'accord.
Je suis la référente sur la Manche.
Donc là, ça se passe comment?
Malheureusement, bien souvent, on voit des horreurs. Donc là, on fait en sorte de récupérer l'animal et on le place.
En SPA?
SPA ou en famille d'accueil et pouvoir le faire adopter.
Alors, la nourriture, c'est bien, mais nos compagnons, ils ont besoin de soins aussi. Est-ce que vous avez des petits trucs
Tout à fait. Nous avons un partenariat avec la Fondation Brigitte Bardot.
Oui.
Et nous faisons les stérilisations des chiens et des chats avec une identification obligatoire. Et aussi, nous faisons les urgences vitales.
C'est-à-dire
que si l'animal, par exemple, nous avons le cas, par exemple, je vais vous parler d'un cas, on a eu un petit chiot qui avait avalé une aiguille avec son fil, une aiguille de couture avec le fil. Et malheureusement, l'aiguille, elle a fait son chemin dans les intestins, elle a fait des trous partout, il a failli mourir. Donc, la Fondation Brigitte Bardot et nous-mêmes, on l'avait emmené chez le vétérinaire et il a été sauvé.
Donc, c'est la Fondation Brigitte Bardot qui a réglé les...
Tout à fait.
Et ça peut arriver souvent, vous avez un plafond de...
On a un plafond, tout à fait.
D'accord. Ouais. Et ça, c'est des structures qui existent un petit peu partout en France ou il n'y a que vous
Oui, non. Les fondations Brigitte Bardot travaillent beaucoup avec d'autres associations.
Alors, j'ai vu également que vous allez changer de statut.
Ah. Ça, c'est un gros morceau, ça.
Alors, c'est-à-dire, expliquez-nous.
Eh bien, vu qu'on a été, un petit peu très visible sur les réseaux sociaux, mm-hmm. ainsi que sur les radios et même télévision, puisqu'on a eu la visite de BFM TV, qui est venu en immersion pendant une après-midi, on a été propulsé à avoir des appels de toute la France, donc pour créer la cantine des Patounes dans plusieurs villes. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons 56 demandes, 56 villes.
56 villes qui veulent rentrer dans
le système. Tout à fait, tout à fait. Donc, nous allons essayer de mettre en place en début d'année une fédération, une fédération nationale pour pouvoir créer donc, ces cantines de Patounes un peu partout et qui puissent bénéficier des subventions dans chaque département.
Alors, à une cantine des Patounes, au niveau des industriels, ça passe. Par contre, 55, est-ce qu'ils vont toujours donner ces industriels qui vous donnent ?
Il y a des industriels dans d'autres coins de France. Ce sera à chaque cantine des Patounes
de se débrouiller.
La démarche de trouver...
Et s'ils n'y arrivent pas, ça... Ils devront y arriver,
Ils vont y arriver, ils n'auront pas le choix de toute façon.
Ce soir, je crois que c'est demain, vous organisez un festival.
Oui.
Alors, je vous laisse faire la promotion du festival.
Ah, et bien demain, nous avons le festival Solipad, premier festival solidaire que nous organisons, premier grand événement que nous organisons aussi d'ailleurs. Ça se passe à la salle Marcelelli.
Oui.
On commence à 18h, enfin les portes ouvrent à 18h, on ira jusqu'à 1h ou 2h du matin. Donc, il y a 4 groupes de rock.
Oui.
Elagun, Battlejuice, Météor et Waris Kebab, et ainsi que le DJ José qui fera aussi la promotion de notre festival. Alors, il faut savoir que c'est solidaire parce que nous avons été déjà aidés par la mairie de Coutances qui nous a offert la gratuité de la salle.
Oui.
Nous avons aussi le graphiste, pour ceux qui ont vu l'affiche, qui est magnifique, qui a travaillé gratuitement sur cette affiche. Tous les groupes viennent aussi gratuitement. Nous avons les tarifs aussi au niveau de la sono.
D'accord.
Et au niveau de la boisson. Tout le monde nous a aidés en fin de compte.
Vous espérez, c'est payant l'entrée ?
L'entrée est payante, elle est de 12 euros.
12 euros ?
On a un tarif.
Combien ? 2 euros ?
12.
12 ? Ah !
On a un tarif pour les personnes en mobilité réduite de 10 et autrement c'est gratuit jusqu'à 11 ans.
Quelque chose à ajouter pour faire venir les gens ?
Ben oui, il faut venir s'éclater, il faut venir partager. C'est une soirée de partage, de solidarité, en fin de compte.
Il y aura d'autres activités à part la musique ? Ou c'est simplement une soirée festive musicale ?
Non, c'est une soirée festive musicale.
Donc, vous dites aux gens, venez nombreuses et nombreux.
Ah, tout à fait. On fait
non,
ça
mais
tous
c'est important,
jours.
Bien sûr.
C'est important pour les animaux.
Fait,
que vous vous occupez.
Coutances se manifeste.
On a de très bons retours jusqu'à maintenant. Je pense que...
Quelque chose à rajouter ?
Non.
Bon, ben voilà, c'est fait. Je vous laisse partir.
Merci.
Je pense que vous avez du travail. 12h21, on
tout
marque une courte pause et on revient très vite sur CFM.
CFM. On en parle sur CFM.
12h26 sur CFM, on en parle, l'émission de la rédaction de CFM avec moi aujourd'hui, Corinne Gester qui est partie pour préparer le festival de demain. Didier Mabi, le président de la PAM, est resté, APAM Le Sénéquet, mes sociétaires du jour, Casimir Buzinski et Jean-Luc Michel. On va parler maintenant de la réforme de la pêche de loisirs. Vous êtes le président de la PAM Le Sénéquet. Qu'est-ce que ça veut dire ce sigle et expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors, bien dans le micro, vous rapprochez bien.
La PAM Le Sénéquet, comme son nom l'indique, c'est une association des pêcheurs amateurs de la Manche. Donc, c'est une association départementale, qui son champ géographique, c'est le département. Pourquoi Le Sénéquet ? Parce qu'à un moment, on a fusionné dans notre histoire.
Il y a un phare là-bas.
Oui.
On y voit plus clair, peut-être.
Non, c'est pas ça. C'est qu'il y avait une association à Gouville qui s'est rapprochée de nous, avec laquelle on a fusionné, et ils souhaitaient quand même que leur existence au travers du phare Le Sénéquet soit mentionnée. Donc on a ajouté Le Sénéquet à l'APAM. Voilà pourquoi ça s'appelle APAM Le Sénéquet. C'est une association qui a un peu plus d'une vingtaine d'années.
Oui.
À l'origine, elle était surtout basée dans le Coutançais, c'est-à-dire Audeville-sur-Mer. Un peu le centre, c'était Audeville-sur-Mer à l'époque, dans les années 2000. Et entre Granville et Hauteville-sur-Mer, vous avez une pratique historique, une tradition, qui oui. est la pêche de la sole au râteau à sole.
Oui.
Et c'est une activité qui remonte, qui part de Granville jusqu'à Créances.
D'accord.
Au-delà, il n'y en a pas, vraiment. Oui. Parce que ça nécessite une caractéristique propre à notre estran sud, qui la mer se retire très très loin, et elle laisse une pellicule d'eau sur le sable, et dans cette pellicule d'eau, des sols continuent à nager,
donc,
ou à se cacher. Et donc, le râteau, c'est pas comme un râteau de jardin, hein, c'est un cylindre
oui.
avec des picots qui sont pas agressifs, qui sont arrondis, que l'on tire avec un harnais, et qui font bouger les sols qui se sont cachés.
D'accord.
C'est un peu comme si on labourait en surface doucement.
Oui.
Et les sols se sont soulevés, et là, quand on les repère, on les chope à la main, si on est habile, puis on regarde bien où elles sont, hein, parce que ça fout le camp vite fait.
Oui.
Et donc, cette pratique très écolo, parce qu'elle n'abîme pas le poisson, ça permet de le relâcher s'il ne fait pas la taille, enfin, c'est très, très propre comme pêche. Je ne sais pas ce qui est passé dans la tête du préfet, mais il avait décidé de l'interdire.
Donc un mouvement s'est créé et l'association
à ce moment-là, le jour où il est retrouvé devant sa porte 1500 personnes qui étaient en manifestation, il s'est dit mais
le préfet venait de Corrèze
probablement
ou du Lambèze
et il s'est trouvé un peu surpris de la réaction si vive d'autant de gens et il est revenu sur son propos et puis on s'est expliqué et puis voilà et l'affaire est partie comme ça et l'association a commencé à vivre à ce moment-là et c'est concomitamment que aussi l'État a commencé à se dire il va peut-être falloir qu'on réglemente un peu les rapports avec la pêche à pied, qu'on s'explique mieux, etc.
Oui.
Donc ça vient au cœur de notre propos sur pourquoi une réforme, quid de cette réforme qui s'annonce. Pour l'instant, on est régi par un droit régalien.
Oui.
C'est depuis Louis XIV, Colbert avait prononcé un édit. Qui s'appelle l'édit du droit de grève.
Oui.
C'est pas celui de ne pas travailler,
mais
celui de pouvoir circuler.
De pêcher sur les grèves.
Sur les grèves. Donc moi, ça m'amusait beaucoup, en tant que vieux syndicaliste, de défendre l'édit du droit de grève.
Ça reste dans le métier.
Ça reste dans le métier. Et il disait quoi, cet édit ? Il disait « J'accorde à tous mes sujets le droit d'aller se promener sur la plage et d'y ramasser et d'y pêcher ce qu'ils ont besoin pour leur vie, leur survie, le cas échéant. »
Mais ça a bien changé, ça, depuis. Maintenant, c'est plus de la pêche.
Ça a bien changé, pas tout à fait. Ce qu'on appelle la surface sur laquelle on est, hein, ce qu'on appelle le domaine public maritime, ça, c'est une notion importante. Parce que c'est une notion juridique, et puis c'est une notion auquel on doit toujours se référer, au lieu de dire la plage, les rochers, je ne sais quoi, on dit le domaine public maritime, c'est-à-dire l'espace du littoral qui est découvert par l'amplitude des marées, très précisément. Donc chez nous, c'est important, parce qu'il y a des amplitudes de plusieurs kilomètres.
En Méditerranée, c'est moins important.
Voilà, en Méditerranée, c'est autre chose. Cet espace appartient à l'État. En totalité.
Oui.
Et donc tous les gens qui y travaillent, qui y établissent des constructions temporaires, que sais-je. Je parle bien sur la zone de balancement des marées.
Oui, bien
donc
sûr.
Les ostréiculteurs, les conchyliculteurs payent une redevance à l'État.
Oui.
Modeste, mais ils la payent. Les cales, par exemple, qui permettent d'accéder à la mer,
oui.
sont aussi sur le domaine public maritime, et les municipalités qui en ont la charge payent une redevance à l'État.
D'accord.
Ce qu'on avait inauguré, nous, pour la mise en place de parking pour les tracteurs sur l'estran, l'espace qui est occupé là, fait l'objet d'une redevance que la commune paye à l'État.
Donc, il y a eu des problèmes aussi au niveau des tracteurs.
Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer ce qu'est l'estran ? Parce que les gens ne connaissent pas très bien.
C'est la même chose.
C'est la même chose, c'est la partie qui est libérée par la mer.
L'estran, vous appelez la partie...
C'est ce qu'on appelle le domaine public maritime.
Découverte par le balancement au cours des marées.
Voilà,
d'accord.
On est d'accord. Ça, c'est... Donc, on est toujours sur ce principe de liberté.
Donc, c'est quoi les règles actuellement ?
Alors, les règles actuellement, c'est que... c'est la première, c'est la gratuité et la liberté.
De pêcher.
Non, de circuler et de pêcher.
D'accord.
Parce qu'il n'y a pas que nous qui sommes usagers de l'estran. Il y a, surtout avec le développement d'activités touristiques de plus en plus nouvelles, il y a les gens qui font du... Les gens qui entraînent leurs chevaux.
Oui.
Les gens qui font du kitesurf. Les gens qui font du char à voile. Les gens qui font du longe-côte. Les gens qui font du surf. Bref, il y a de plus en plus de public large qui occupe l'espace.
D'accord.
Il y a un moment...
Il faut réglementer.
Pourquoi ? Non, à un moment, ça se bouscule. Alors, on va y venir. Ce qu'il faut faire, c'est apprendre aux gens à vivre ensemble. On est dans l'apprendre à vivre ensemble. Il y a une municipalité qui a été exemplaire de ce point de vue-là, c'est celle de Pirou.
Oui.
Elle a anticipé cette situation, elle a fait une campagne pour que les gens apprécient mutuellement et que s'approprient les règles du jeu pour que le vivre ensemble fonctionne. Alors très concrètement, ça veut dire qu'on va partager cet espace, on va le partager, donc il y a des arrêtés municipaux, on parle des règles, on commence à en parler. Mmh. Il peut y avoir des arrêtés municipaux qui limitent, avec l'accord du préfet, parce qu'on est toujours sous l'autorité du préfet,
bien sûr, oui. Mmh.
Qui limite l'entraînement des chevaux entre 5h et 7h du matin, ou 5h et 9h du matin.
D'accord. Donc ça sera chaque commune. Chaque commune peut le faire.
Non, chaque commune, ça dépend s'ils ont des chevaux qui s'entraînent.
Bien sûr, là, oui. Si vous n'avez pas de chevaux, il n'y a pas d'intérêt.
Pas d'intérêt. Donc ce n'est pas un truc général. Oui. Ça s'adapte. Le maire fait les propositions.
Ça s'adapte par commune.
Par commune. Dans les communes de l'Est Cotentin, c'est plus courant que dans celles de l'Ouest. Il y a plus de chevaux là-bas. Après, vous avez les gens qui promènent leurs chiens. Donc, y a des horaires pour ça, le matin, entre 8 et 9, par exemple, selon les communes. Des fois, d'accord, c'est une interdiction totale, ou partielle, dans le temps. Quand c'est une grosse affluence touristique, on ferme le caca des chiens,
d'accord,
très concrètement. Il y a la protection de l'environnement. Donc, la fameuse histoire du gravelot à collier interrompu, y a des règles pour qu'on le protège. Il y a la mise en place des bacs à marée, où on demande aux gens de contribuer à la propreté du littoral en ramassant les déchets maritimes qui traînent. Il y a plein de choses qui se créent pour faire que l'environnement soit partagé par tous, parce que c'est un domaine public.
D'accord.
Et on est très attaché à cette notion.
Et vous ne souhaitez pas de règles communes à toutes les communes ?
Non.
Enfin, de règles communes à l'ensemble
du
littoral.
Alors, s'il y a une chose sur laquelle nous, on est historiquement ancré, c'est dans le respect de nos traditions maritimes. Et il y a... Je vais vous donner plusieurs exemples en cette matière.
Un seul suffira.
Un seul suffira, deux. Je vous ai parlé de la pêche au râteau à sol.
Oui.
Bon. Mais il y a aussi une autre pêche qui n'est réservée qu'aux gens qui habitent entre Carteret et Quétou, toute la côte nord.
D'accord.
C'est les seuls qui ont le droit de poser des casiers dans les rochers. Ils ont le droit de poser deux casiers. Pour ce faire, ils doivent demander une autorisation à la DDTM.
D'accord.
La Direction des Territoires et de la Mer. Mmh. Et... sur cette partie-là, et seulement cette partie-là, vous avez le droit de poser les casiers, pas ailleurs. Il y a des espèces comme ça, de choses un peu plus compliquées. Donc des règles, il y en a. Des règles, il y en a, elles se sont ajustées.
Mais un certain Éric Banel, le directeur général des affaires maritimes de la pêche, veut que les règles soient communes à tout le monde,
non,
en 2028.
C'est pas exactement ça qu'il veut.
Qu'est-ce qu'il veut ?
Pour l'instant, il ne sait pas trop ce qu'il veut, à dire vrai.
Oui.
Il veut répondre à une injonction
de l'Europe
oui, qui est très précise, qui dit « Nous souhaitons que vous puissiez nous déclarer la totalité du nombre de pêcheurs de loisirs maritimes que vous avez sur votre pays, comme le font les autres pays d'Europe. Et vous, la France, vous êtes à la ramasse, là,
vous êtes
à la traîne, ça fait des années qu'on vous le demande et vous ne le faites pas. » Première chose. Et deuxième chose, on souhaite aussi savoir qu'est-ce qui prélève sur le stock. Parce que nous, Europe, on décide de quotas. Et en France, le montant des prises qui sont occasionnées par la pêche de loisirs n'est pas mesuré.
Elle est conséquente ou pas, cette...
Alors, là, les études varient très, très, de manière...
Donc on n'est pas sûr.
Aucune certitude. Je vais vous donner un exemple de aucune certitude. En 2018, la Commission européenne avait arrêté la pêche du bar.
Oui.
On se dit, mais pourquoi ? Ils avaient reçu une pseudo-étude scientifique, j'ai bien une pseudo. Hein.
L'IFREMER.
IFREMER et CIEM, plusieurs. Enfin, je pense que c'était l'IFREMER à l'époque, qui avait fait la bêtise de sous-traiter son activité à des gens pas très sérieux. Et donc, ils avaient considéré qu'on pêchait plus de 1600 tonnes de bar par an.
À la main, enfin à la canne.
À la canne,
à la canne,
hein.
C'est ça.
À la canne, en bateau, en pêche embarquée aussi.
Oui, pêche embarquée.
Enfin, toutes les pêches de loisirs maritimes autorisées. On s'est dit, mais ils sont complètement malades. C'est le montant quasiment de la pêche professionnelle. Ils sont à côté des ponts, de leurs pompes, les gars-là. Mais ils n'ont rien entendu. Résultat, la Commission européenne, effrayée par ce chiffre, bloque la pêche du bar pour tout le monde. Nous, derrière, manifestation, pour Normandie, machin, on fait du bruit. On demande que l'IFREMER revoie sa copie et refasse les mêmes calculs qu'elle faisait auparavant avec les mêmes protocoles.
D'accord. Et donc, on est redescendu à combien ?
On a divisé par 7.
Donc la pêche a été rouverte.
Bah, la pêche a été rouverte.
Alors ce qui ne les empêchait pas non plus d'accepter d'avoir des bateaux usines de 150 mètres, 200 mètres, qui font 600 tonnes de poissons à la...
Absolument.
Jean-Luc Michel.
Saluer votre association, d'abord, qui est une association dont les membres sont des gens qui sont...
Des citoyens.
Qui sont des citoyens qui ne sont pas hors sol. C'est-à-dire ce sont des gens qui utilisent l'espace maritime qui a été rappelé, et cette association que je connais bien par le biais d'adhérents qui font partie de votre association, vous menez un combat exemplaire pour justement préserver à la fois les traditions, mais aussi à la fois les espèces, puisque vous venez d'en parler, et je trouve que, heureusement que vous êtes là, parce que je pense que si votre association, en l'occurrence, on parle de la Manche, n'avait pas été là pour défendre les pêcheurs à pied, c'est-à-dire ceux qui, le dimanche ou lors des grandes marées, vont par plaisir d'abord pêcher, puis ensuite, bah, effectivement, ils ramassent ou ils cueillent
leur pêche
de la journée. Moi, je trouve que vous menez un combat exemplaire. Exemplaire parce que si vous n'étiez pas là, aujourd'hui, on interdirait tout. Parce qu'on est sur l'interdiction partout. À chaque fois, c'est... alors, sur des études qui sont parfois discutables, vous venez d'en faire la preuve, mais une étude, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Et là, en l'occurrence... C'est vraiment l'exemple. Et donc, je salue cette association très fortement parce qu'elle est, à mes yeux, une des associations qui a les mains sur la réalité et qui représente ses mandants de façon exemplaire. Alors, encore merci.
Alors moi j'ai une petite question, hein. Lors des dernières grandes marées, on a vu débarquer une autre marée, celle des personnes qui sont venues complètement labourer l'estran. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réglementer un petit peu ça? Parce que la dernière c'était catastrophique. Hein.
Il y a le ressenti, il y a le réel.
Oui.
Alors moi ça fait des années que je creuse le réel, c'est-à-dire on parlait d'études. Notre association a travaillé étroitement avec un institut qui s'appelle le Syndicat Mixte d'Études Littorales, basé à Blainville, qui est un organisme financé par le département, qui est un établissement public, qui mène des études en particulier au profit de la conchyliculture et de la mythiculture. Et j'étais en étroite collaboration avec son directeur de l'époque, M. Olivier Bazouillot. Et on a travaillé pendant 5 ans ensemble. On a comparé les prises de mes adhérents avec les mesures que lui faisait sur un certain nombre de spots. Et depuis 5 ans, régulièrement, il y a 5 spots qui vont de Bréguville-sur-Mer jusqu'à Gouville, qui sont étudiés, avec des méthodes scientifiques très rigoureuses, méthodes de cadra, toujours les mêmes, aux mêmes endroits, etc. Ils mesurent attentivement ce qui se passe. Et on s'aperçoit de quoi? C'est que l'espèce coque ou l'espèce palourde prospère.
Oui.
Justement, j'ai une question à vous poser parce qu'il y a eu une polémique l'hiver dernier sur la pêche professionnelle à pied,
Hauteville-sur-Mer.
Notamment sur Hauteville, mais il n'y a pas que Hauteville.
Oui,
hein.
Mais c'est là que ça a fait le plus de
bruit. Mais c'est là, effectivement, où on a mis l'accent à la fois dans la presse et puis les élus s'en sont émus, comme on dit. Ce qu'on autorise aux professionnels. Là, vous venez de parler, effectivement, du pillage de l'estran. Ce qu'on autorise aux professionnels sur des quantités réglementées, puisque là, on est maintenant sur 90 kilos par jour, si j'ai bien lu l'arrêté
de
coque, alors qu'à certains moments de l'année, on interdit même la pêche aux loisirs. Et comme par hasard, les analyses de l'eau sont toujours bonnes au moment où on autorise en septembre.
Alors,
comme par hasard, non mais vous allez me répondre, pour les pêcheurs professionnels, qui là, mais alors, dévalisent, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, l'estran, de façon honteuse, et là on n'a pas de réponse, on est obligé de laisser faire.
12h42, la réponse arrive dans quelques instants sur CFM, juste après une petite pause.
CFM. On en parle.
La question de CFM.
On en parle. L'émission de la rédaction de CFM avec Corinne Jester qui est partie travailler. Didier Mabille est resté avec nous. Casimir Musinski et Jean-Luc Michel. Je vais vous laisser répondre à la question qui était posée tout à l'heure par Jean-Luc Michel sur ces pêcheurs professionnels à haute vitesse qu'on a vu, hein, notamment alors, Audouille-sur-Mer.
Alors le problème qu'on a eu sur Audouille-sur-Mer, c'était que
les
pêcheurs professionnels qui sont débarqués à Audouille-sur-Mer venaient du Nord-Pas-de-Calais. Ils venaient de la baie de Somme. Leur quota avait été diminué et ils se sont engouffrés dans une brèche juridique.
Oui.
C'est très compliqué ce que j'ai raconté. C'est un peu délicat au niveau radio, mais la brèche juridique était qu'il n'y avait pas de quota pour les coques, pour les professionnels, dans les zones du type de celle de Lingreville.
D'accord.
Pour faire simple.
Ok.
Et donc ils se sont engouffrés dans la brèche et ils ont tapé dans la butte. Hein. Mm. Bon, rassurez-vous, le stock est extrêmement abondant. Et c'est pas demain la veille qu'il n'y aura plus de coques, au contraire. De même pour les palourdes, rassurez-vous, le stock est très abondant et va continuer à prospérer. Il n'y a pas de souci pour le stock. Il faut le savoir, c'est ça qui est fondamental.
D'accord.
Ça explique pourquoi il y a tant de pêcheurs qui viennent pendant les vacances. Et pourquoi, malgré qu'ils soient si nombreux, ça n'emporte pas une baisse de la ressource. Donc il faut avoir ça en tête, toujours. Alors, bien évidemment, c'est très laid ce qui se passe, visuellement. C'est-à-dire que je blague en disant que quand ils repartent, on croirait 39-45, c'est le débarquement. Et quand ils sont partis, c'est 14-18, c'est le chemin des dames, hein, tellement ils ont labouré. Donc, mais ça, en trois jours, la marée l'a tout nettoyé. Et le stock est toujours là. Et auparavant, il y a quelques années, le volume de palourdes au mètre carré était de 7 à 8. Mmh. C'était largement suffisant pour nous, plaisanciers.
Par mètre carré, d'accord.
C'était largement suffisant pour nous, les plaisanciers. Bon, on a un quota de 100, on n'est pas obligé de faire les 100. Hein. Vous en faites 50, ça suffit à nourrir votre famille, hein, ça fait plaisir à tout le monde. Mmh. Et c'était, bon, 7 à 8, vous prenez quelques temps pour le faire, et c'était bon. C'était insuffisant pour des professionnels de la pêche à la palourde. Eux, ils sont autorisés à pêcher 20 kilos.
Oui.
Et c'était pas suffisant pour qu'ils puissent en vivre. Conséquence pratique. Il y avait à peu près, d'après les études faites avec le SMEL, les pros prélevaient 12 tonnes par an de palourdes sur la zone dont on parle, hein, les 5 sites dont j'ai parlé tout à l'heure. Et les plaisanciers en prélevaient 130 tonnes.
D'accord.
Donc 12 tonnes, 130 tonnes.
Nous, les plaisanciers, en ont prélevé 10 fois
10
plus.
10 fois plus, oui.
C'est beaucoup plus nombreux aussi.
Ben oui, non, mais bien sûr. Mais je veux dire aussi, ça veut dire qu'il y avait très très peu de pêcheurs professionnels.
Pêcheurs professionnels.
Parce que c'était totalement aléatoire comme pêche. C'était une petite pêche d'appoint quand ils avaient le temps de s'en occuper pour faire autre chose. Ou parce que les conditions maritimes n'étaient pas propices à faire autre chose. Mais là, les choses changent un petit peu. Parce que l'abondance venant, l'appétit vient avec. Mmh. Et il y a de plus en plus de professionnels de la palourde. Palourde, hein.
D'accord.
Il y a assez peu de professionnels de la coque de chez nous, de la Manche. Mmh. Ils venaient plutôt du Nord-Pas-de-Calais. Bon, pour revenir à ce qui s'est passé à Hauteville, très très vite, l'administration, et je la salue pour le coup, a pris les choses en main. Il y a une jeune femme qui malheureusement a quitté les services de la DTM, qui s'appelait Madame Aude Molinos. Je dis jeune parce que c'était une jeune énarque de moins de 30 ans, hein, qui a pris ça en main avec beaucoup d'intelligence. Et d'abord, ils ont bloqué le prélèvement.
D'accord.
Dès le mois de mai.
On bloque, on réfléchit.
Et on bloque, on se réunit et on réfléchit.
D'accord.
Et on se réunit avec qui ? On se réunit avec tout le monde. Donc elle fait une réunion au mois de juin auquel elle invite les pêcheurs plaisanciers, les pêcheurs professionnels, les maires concernés par des communes, l'administration qui va avec, évidemment. Et on se met autour de la table et on s'engueule.
Et les associations d'environnement ?
Une. Et une association naturaliste qui se déguise en association de pêcheurs. Mais c'est pas grave. Ils étaient là. Et puis aussi, moi j'avais demandé à mes amis, parce que ce sont aussi mes amis dans certains cas, pas toujours, mais parfois, de Manche Nature, d'être à mes côtés. Mm-hmm. Parce qu'à ce moment-là, nous, on avait l'intention d'engager une action juridique devant le TA, au motif que l'évaluation du stock n'avait pas été faite.
Le TA ?
Le tribunal administratif, pardon. Et j'avais totalement confiance dans l'activité de Manche Nature à cet égard. D'autant plus confiance que...
Qui ont de bons juristes.
Ils ont de bons juristes, mais surtout, ils ont des juristes qui disent « On y va pour gagner, on n'y va surtout pas pour perdre. En aucun cas, on ne voudrait une jurisprudence qui s'oppose ensuite à nos travaux. » Et donc ça, c'est la différence entre Manche Nature et un avocat. Un avocat, il va plaider, prendre la monnaie.
Oui, un avocat, lui, c'est son travail.
C'est pas un militant. Eux, c'est des militants, et entre militants, on se comprend. Et là-dessus, on était d'accord sur la démarche, on a fait ensemble. Et puis, on a arrêté aussi. On a arrêté parce que la solution qui a été proposée par l'administration, après avoir bien discuté, on s'est tous mis d'accord. Alors, je ne vous cache pas que les gens du Nord-Pas-de-Calais n'étaient pas tout à fait là. Parce que, bah non, parce que la chose est un peu étonnante.
C'est plus facile
que,
quand même.
Non, mais c'est parce que la pêche professionnelle, elle est régie par le comité régional des pêches.
Oui.
C'est-à-dire que l'État distribue des permis de pêche et le comité régional des pêches distribue des licences par type de pêche. Pour la palourde, pour la coque, c'est pas les mêmes licences. Pour la pêche, la coquille, etc. Il y a des quotas, il y a des choses qui sont discutées avec l'administration, et il y a un certain nombre de licences qui sont délivrées par le comité régional des pêches de Normandie.
D'accord.
C'est l'empêcheur de.
Dont le siège est à Rouen.
Non, au Havre. Au Havre, je crois. Au Havre, quand je sais plus. Excusez-moi, je sais plus où est le siège du comité régional des pêches. Mais toujours est-il, enfin, c'est Dimitri Rogoff, le patron.
Oui. Hein,
ok. On est bien là. Et donc, ils peuvent aussi distribuer des licences à des gens qui sont extérieurs géographiquement à la Normandie. Mais en attendant, c'est eux qui distribuent.
D'accord.
Donc, il y avait dans cette assemblée un monsieur qui s'appelait Xavier Tétard, qui représentait le comité régional des pêches, un jeune biologiste. Un jeune ingénieur en biologie marine qui travaille au sein du comité régional des pêches, un garçon très brillant, très fin, et j'ai beaucoup apprécié de discuter avec lui.
Ouais.
Et donc on a abouti à une solution. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'affoler sur les volumes. Hein. Quand on dit... Il y a déjà l'habitude avec l'administration en ce qui concerne la pêche des coques, à ce que de concert entre le comité régional des pêches et l'administration et une instance scientifique, c'est ça qu'on a obtenu nous, soit évalué le volume du stock, le volume de ce qui est possible de prélever sans déséquilibrer la ressource. Mmh. C'est ce qui se pratique déjà dans ce qu'on appelle les zones réglementées. Alors, pour parler dans la Manche, Bourguignot.
Oui, c'est des zones où on n'a pas le droit de prélever.
C'est des zones où seuls les professionnels vont pêcher.
D'accord.
Et il y a une réunion annuelle entre les trois personnes dont je vous ai parlé, l'administration, le comité régional des pêches et une instance scientifique qui analyse l'état du stock et qui, à partir de là, définissent le volume qui sera autorisé à prélever.
D'accord.
C'est assez intelligent, quand même.
Ben, ça fonctionne bien. Et donc, dès l'instant où ça, c'était notre revendication principale, on voulait savoir s'il était bien certain que la pêche de la coque à Hauteville n'emporterait pas une disparition de la ressource. Mm. Et donc, on voulait qu'il y ait une évaluation du stock. Ça nous a été accordé. Mais plus nous a été accordé encore. C'est la mise en place d'un comité permanent de suivi de l'activité. Associant à la fois les plaisanciers et les professionnels. C'est une première, hein, vraiment.
Parce que les plaisanciers sont souvent laissés de côté, non ?
De côté, oui, totalement, ouais. Totalement. Ils sont totalement laissés de côté. C'est la première fois que je vois l'administration se pencher et envisager...
Et pourquoi, d'après vous, c'est ce changement de direction, enfin de ton ? C'est quoi ? C'est que vous avez pris de l'importance ?
L'importance, elle était déjà là. Quand je vous disais qu'on prélevait 10 fois plus que les pros, rien que ça parle. Le fait que c'est une activité qui a un impact économique fort. Quand il y a une grande marée, vous avez 15 000 personnes dans la zone du Coutançais, hein, qui viennent pêcher la coque, ou la palourde, surtout la palourde. C'est la pêche emblématique, c'est la palourde. À 70% de mes adhérents, c'est la palourde. Et c'est quand même 15 000 personnes, c'est beaucoup de monde.
Mais c'est énorme.
Combien d'adhérents dans votre association ?
800.
Donc voilà, moi je crois aussi qu'une des raisons pour lesquelles vous êtes autour de la table, c'est que d'abord vous êtes des gens sérieux, et puis vous représentez une masse importante des gens qui, justement, utilisent l'estran. Et à ce titre-là, vous avez toute votre place, et je salue l'administration qui a fait ce pas de mettre autour de la table les usagers, il y a effectivement cette pêche de loisirs qui sont les usagers, et je trouve ça très intelligent. Et
qu'ils soient autour de la table pour décider avec les professionnels et tous ceux qui utilisent.
Eh bien, pour éviter les excès des uns et des autres, je trouve que c'est très bien.
Les professionnels nous reprochaient, par exemple, que des gens, nos adhérents, ne respectaient pas les quotas, par exemple.
D'accord.
Alors, on a dit, OK. Alors, effectivement, des deux côtés, ça a pris des claques. Il y a des gens qui encore récemment, ont monté les feuilles en disant, oh, j'avais 160 palourdes, je me suis fait gauler. J'ai dit, c'est bien pour tes pieds.
Bah oui.
Il m'a dit, oui, mais. En fait, quand j'étais en Vendée, j'avais le droit d'empêcher 200, puis j'ai pas fait gaffe qu'on était en Normandie. Ça, c'est des petits soucis.
12h55, on marque une courte pause.
CFM. On en parle sur CFM.
12h57, on en parle sur CFM. Il y avait Corinne Gester, la présidente de la cantine de Patoun. Elle est partie pour commencer à installer son festival. Didier Mabi est avec nous. Il y a également Casimir Bzinski et Jean-Luc Michel. Donc on va passer maintenant en carte blanche. Juste avant, Jean-Luc Michel voulait dire un petit mot sur l'allocution présidentielle d'hier soir. Jean-Luc Michel.
Oui, alors je l'ai écouté avec beaucoup d'attention. Effectivement, le président a rappelé des choses importantes, notamment... sur ce conflit entre l'Israël et puis la Palestine. Donc là, on est sur la bande de Gaza, on vient d'assister à une horreur, hein, on ne peut pas appeler ça autrement. C'est le Bataclan en force 10 ou 20.
Puissance
10 ou 20. Et forcément, c'est des terroristes. Terroriste, le mot, je le dis très clairement, comme l'a dit d'ailleurs le président. Je regrette que dans le débat public, tout le monde ne soit pas aussi clair sur le sujet. Il a eu les bons mots. Il y a une diplomatie qui est en place pour essayer de trouver une solution à la fois aux otages, mais aussi à la suite du conflit. Le président a utilisé les bons mots. Moi, j'ai trouvé qu'il a été dans le ton. Bien sûr, avec la réserve qui s'impose.
Faire la France, la
mais la France
un pays
peut faire.
Entre,
la... Non, non, la
c'est
France...
un pays. C'est un problème entre Israël,
oui,
le Qatar et les Palestiniens.
La France
le,
peut
le
intervenir.
Le gouvernement.
Chacun son tour.
Le gouvernement. Netanyahou a laissé les choses faire. Netanyahou qui a des casseroles aussi grosses que CFM à pendre toute derrière lui, a laissé faire les choses. Et donc, si Netanyahou ne saute pas, les choses ne sont pas réglées.
Il faut d'abord régler. Moi, on me demande mon avis sur l'intervention du président.
Mais oui,
je vous le dis.
Parole.
Non. Là, je suis d'accord. Je trouve qu'il a été clair hier soir. Et je m'en félicite parce que les jours qui vont venir vont être tragiques.
Bon, alors c'est la parole de bonimenteur.
Alors, on va passer maintenant.
De bonimenteur.
Casimir, on va faire un dernier tour de table avec les cartes blanches. Qui veut commencer ?
J'attaque.
Bon.
Alors moi j'attaque. Je voudrais dire trois choses dans ma carte blanche. Donc c'est une triple carte blanche. La première chose, féliciter la maison Regnault Olivier, carrossier à Coutances, et qui s'est considérablement, comment dire, étendu en ouvrant une grande usine dans la zone industrielle. Les féliciter parce que ça fait du travail pour les Coutançais et ça devient la deuxième ou la troisième société coutançaise en matière de volume. Deuxième chose, le président s'est exprimé hier, je ne l'ai pas écouté parce que je pense que c'est un boni menteur. Et que par là, on nous raconte tout et n'importe quoi depuis de nombreuses années. Voilà en ce qui concerne l'histoire.
Alors,
l'histoire,
la carte
c'est
blanche.
Netanyahou. Et ma carte blanche, c'est la fraude et la santé.
Bon, on va passer à la carte blanche.
Alors, la fraude et la santé, je vous rappelle que la Sécurité sociale est le meilleur payeur, rembourseur, tant pour les soins que pour les arrêts de travail et maladie. La fraude détectée par l'assurance maladie, la Sécurité sociale est de 146,6 millions d'euros au premier semestre 2023. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Et ça porte surtout sur les soins de ville et ça a augmenté de 80% par rapport à 2022. Ce qui est énorme. Alors, c'est plein de remboursements indus liés à des pratiques illicites, illégales en quelque sorte. Des professionnels de santé. Les professionnels de santé sont inclus là-dedans. Et vous avez les infirmiers, les kinés, les dentistes, les sages-femmes, les médecins. Et selon la classification confidentielle, je vous l'ai donné dans l'ordre. La classification confidentielle de la Sécurité sociale. Ensuite, il y a les marchands de matériel de santé, les audioprothésistes et les lunetiers. Et notamment dans le 93. Dans le 93, il y a plus de 75% du matériel de dioprothèse et de lunetterie qui est surfacturé à la Sécurité sociale sans que les gens l'ont. Alors dans le 93, j'ai regardé, la population du 93, c'est une population peut-être particulière Si j'en crois en Normandie, et semble-t-il dans la Manche, nous sommes beaucoup mieux, comment dire, gérés, et on n'a pas ce genre d'incident. Il y a eu ensuite des déconventionnements, 13, comment dire, centres de santé, et notamment de dentisterie, ont été déconventionnés sur la sécurité sociale, ne considère plus que les travaux que font ces gens-là et les factures qu'ils envoient soient remboursées. Parce qu'il y avait des soins inutiles, des facturations, comment dire,
fantaisiste,
de prothèses et autres qui n'existaient pas, des opérations sont faites ou des opérations ratées, et où officient, hélas, de nombreux diplômés non français. Donc voilà un peu le problème qui se pose. Le système frauduleux est attractif et pas assez contrôlé, car on manque de fonctionnaires dédiés à la surveillance. Mais c'est ce qui se passe quand on a vu les gouvernements de droite dire moins de flics dans les trucs, il y a davantage de violence publique, moins d'agents du fisc, il y a davantage de fraude, moins d'argent pour la sécu, et il n'y a plus de dérive. Mais mal payer les agents de la santé, tous confondus, incite à ces dérives.
Merci Casimir.
Pensez qu'un défaut...
Casimir, c'est une minute normalement.
C'est qu'un député touche 800 000 euros et une aide soignante 1200 euros par mois, je trouve que ça demande réflexion.
Le message est passé, Didier Mabi.
Bien, et, bah, écoutez, je vais essayer d'être précis.
Hein. Et concis. Disais,
et concis. 2028, l'État français devra fournir la liste des pêcheurs de loisirs maritimes et le volume de poissons qu'ils prélèvent. Donc nous, on est plutôt favorable à une formule déclarative, c'est-à-dire qu'on se déclare. Moi, je suis aussi apiculteur. Je me suis déclaré auprès du ministère de l'Agriculture. Dans la minute, par Internet, il m'a renvoyé un numéro d'apiculteur, tout simplement. Et pourquoi il me demande ça? Il me demande ça pour pouvoir intervenir si jamais il y a un risque sanitaire sur les ruches. Afin de dire, allô monsieur Babille, attention, il y a une menace de la loque américaine dans le coin, protégez vos ruches ou faites-les disparaître, peu importe. Voilà. Donc pourquoi pas la même chose pour la pêche? Allô monsieur Mabille, il y a un nouveau changement du règlement, la taille de la sole est passée à 25 cm, la taille du tourteau à 15 cm, intègre-le dans la connaissance du règlement. C'est une chose qu'on peut faire à une époque où les réseaux sociaux disent beaucoup de conneries. Je préférerais que l'État prenne en charge la communication au lieu que je cavale moi derrière les gens pour leur expliquer ce qu'il faut faire et pas faire. Ensuite, sur le volume, ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'un permis. On peut déclarer sa pêche et nous, on est favorable à un carnet de prélèvement avec des déclarations pour chacun. Et on n'est pas dupe que plein, les gens ne sont pas honnêtes dans leurs déclarations.
Il y aura de la fraude.
Bien sûr. Donc ce qu'il faut faire, c'est que pour les poissons les plus vulnérables, eh bien qu'on mette en place, c'est ce qu'on fait pour la chasse, ou pour la pêche du brochet ou du saumon, qu'on propose aux gens d'acheter des bagues. Là, ça ne sera plus totalement gratuit, mais une bague, je vous rappelle, en chasse, la bague pour la bécasse, c'est 30 centimes.
D'accord.
Ça revient à 30 centimes, donc ce n'est pas exorbitant.
Et vous avez une bécasse en face.
Et c'est pas exorbitant. Je veux dire que...
ça moi, fait manger trois personnes, une bécasse.
Non, blague à part. Je suis prêt, moi, à payer 30 centimes ou même 50 centimes une bague pour pêcher un bar. Et si j'en veux 10, j'en achèterai 5. J'en achèterai 10, ça me fera 5 euros. Enfin, je veux dire, c'est pas la mer à boire, c'est le cas de le dire.
Non.
Voilà l'essentiel de ce que je voulais vous dire en ce qui concerne les propositions que nous faisons.
Surtout dans un bar, il n'y a pas la mer à boire.
À l'État, et que nous allons essayer d'élargir nos propositions au travers d'un collectif qui va rassembler de plus en plus d'associations.
J'aimerais une question à notre ami Mabille. Le miel qu'on vend en France viendrait de 90% de l'étranger. Est-ce exact?
Oui, c'est exact.
Voilà, Jean-Luc Michel.
Bien, alors moi, ma carte blanche va s'adresser encore une fois au gouvernement sur la gestion de l'Agirc-Arrco. Je viens de reprendre les termes de M. Véran
et de M.
Dussopt qui se sont étonnés que les partenaires sociaux aient décidé deux choses. La première, c'est l'augmentation des pensions pour suivre le coût de la vie. Hein, donc, elles vont augmenter de 4,9%. Et puis l'arrêt des 10% à partir du 1er avril, des 10% qui étaient prélevés pour rétablir les comptes de l'Agirc-Arrco. Et ils se sont étonnés en disant que les partenaires sociaux s'étaient servis de des bienfaits de la réforme pour redistribuer auprès des retraités. Je trouve scandaleux. Scandaleux que l'État, d'un côté, vienne nous reprocher notre bonne gestion. Je vous rappelle quand même que l'Agirc-Arrco, c'est 65 milliards d'euros que nous avons su mettre de côté. Je rappelle que Jospin avait décidé en 2003 une caisse identique pour la fonction publique, c'est-à-dire les fonctionnaires. Et aujourd'hui, cette caisse est quasiment vide parce que les politiques, les uns après les autres, ont tapé dedans pour combler le déficit de l'État. Et je trouve quand même anormal qu'on vienne nous donner des leçons, nous, les partenaires sociaux, alors que nous savons gérer ce que on nous confie. Donc, encore une fois, ils auraient mieux fait de se taire.
Merci à tous d'être venus au micro de CFM. On aura cette émission sur les réseaux sociaux, le www.cfm.fr en podcast. On remercie à la technique Jean-Louis et Jérôme, et on se quitte en musique avec David Kushner.
Non, monsieur Mabille.